7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, on va surveiller de près demain le taux directeur de la Banque centrale.
Oui, parce que notre Banque centrale au Canada, la Banque du Canada, se dit, bon, là les Américains sont en un taux d'intérêt plus élevé que le nôtre au niveau du taux directeur. Et nous, on essaie de suivre un peu. Puis en même temps, on veut rester dans une fourchette d'inflation de 1 à 3%. Et là, on dépasserait le 2 cette année. Mais en même temps, d'un autre côté, on a peur pour l'endettement de nos Canadiens, qui, eux, sont allés à la limite de l'endettement potentiel. Donc, si on augmente le taux de base ou le taux directeur, ça va augmenter implicitement le taux des marges de crédit, des prêts hypothécaires variables, des marges de crédit hypothécaires. Et ça, évidemment, ça influence la sensibilité de notre gouverneur de la Banque du Canada. Et il nous l'avait bien dit là, qu'elle a augmenté au cours des prochaines années, mais certains disent que ce sera à partir du mois de juillet seulement la prochaine hausse. Mais on doit garder un écart raisonnable avec les Américains, parce que nos amis américains sont à 1,75. Nous, on est à 50 points de base de différence. Plus on laisse les Américains prendre de l'écart, plus la monnaie américaine est intéressante et plus ça affaiblit le dollar canadien. C'est bon pour nos exportations à court terme, mais c'est moins bon pour nos importations et notre capacité d'achat sur les marchés mondiaux. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et évidemment, le taux variable 5 ans, là, pour l'instant, le meilleur que vous négociez, c'est à peu près 2,36-2,40% sur votre prêt hypothécaire. Donc, tout ça est à penser. Et tout ça est un jeu de « je t'en donne un petit peu, j'en sois un petit peu ». On va voir, mais pour l'instant, ça aide aussi les gens à se dire « ben si à long terme, dans le fond, on voit un dollar canadien qui pourrait s'affaiblir, comme la CBC dit, ça veut dire que les placements américains pourraient devenir intéressants pour notre retraite, donc peut-être repondérer les placements américains pour ceux qui en ont pas, pour aller chercher un levier sur la baisse de la monnaie. Donc, c'est tout ça ensemble qui est vraiment intéressant. Je sais, Paul, j'entends ton excitation.
Non, mais je surveille ça avec intérêt comme toi.
Oui, moi, j'ai placé beaucoup en américain au cours des derniers mois en me disant, écoute, il va y avoir ça va me prendre une couverture américaine. Donc, pour ceux qui ne placent pas leur argent à l'international, comprenez cette logique. Si vous maintenez en dollars canadiens et qu'il y a une dépréciation du dollar canadien, ben, vous affaiblissez votre portefeuille au niveau de la capacité de payer, hein, de gérer le risque de change.
On reste un petit peu aussi dans les finances personnelles pour parler des façons de monnayer son logement le plus possible.
Ben oui, hein, Paul, j'ai un ami qui m'appelle la semaine passée qui me dit « Pierre-Yves, mon propriétaire de condo me louait son condo et il veut vendre son condo. » Je dis « OK, mais là, il m'offre de l'argent. » Je dis « Ben bravo. » Oui, il me dit « Non, mais je veux savoir si tu es imposable. » Je dis « Ben, c'est une bonne question dans le fond. Si ton propriétaire t'offre 5, 10, 15, 20 000 pour que tu saques ton camp, c'est quoi la nature de ce revenu-là? C'est-tu une compensation de loyer? C'est-tu un revenu? C'est-tu un cadeau? » Alors, on fouillait un peu, j'ai appelé quelques amis, j'ai dit comment ça fonctionne, on a vérifié. Et imagine-toi donc, Paul, que c'est un gain à capital comme si tu étais propriétaire de l'immeuble. Oui, parce que ton logement, c'est un droit d'occuper le logement.
Oui, mais c'est pas à toi.
Non, mais tu as un droit contractuel d'occuper un logement. Donc, si tu fais de l'argent sur ce logement-là, ça devient comme ta résidence principale. Donc, c'est un gain en capital imposable à 50%. Mais l'avantage, c'est que ça peut aussi donner droit à l'exemption pour résidence principale sous certaines conditions. Donc, on t'impose, mais on t'exempte d'un autre côté. Un peu comme quand tu vends ta maison personnelle.
Mais je te donne un autre exemple, là. Mettons que je suis locataire et que je vais chercher des revenus de location de mon logement, le Airbnb, tout ça, faut que ça soit imposable?
Ah oui, parce que là, c'est de la location, tout comme ta maison. Si tu te mets à la louer de façon commerciale sur Airbnb, ça devient du revenu de location, et okay, le revenu locatif est imposable comme du revenu, mais le gain, c'est-à-dire le droit de vendre ta résidence dans laquelle tu habites, ben c'est un gain en capital, donc imposable seulement à 50%, et ça peut te permettre d'avoir une exemption. C'est
mais
quand même
si
drôle.
Je vends ma maison, il n'y a pas de gain en capital?
Il y a un gain capital, mais il est exempté. Donc, tu le déclares, mais tu n'as pas d'impôt.
OK, mais pourquoi je le ferais dans le cas d'un logement?
Ben pourquoi tu le déclarais, tu veux dire?
Non, mais pourquoi je paierais une taxe sur le gain
parce
capital?
Un impôt? Parce que tu dirais, ben écoute, tu as profité d'une vente d'un actif que tu avais droit. Tu sais, dans le fond, une maison, c'est le droit d'habiter quelque part.
Oui, bien, un logement
aussi,
non?
Un logement aussi. Donc, si tu vends ton logement, tu viens de dire, écoute, j'ai le droit de vendre mon logement. Et c'est à moi. J'ai fait un gain sur ce droit contractuel-là, donc j'ai fait un gain en capital sur un contrat. et donc je fais un gain qui est imposable, mais si je le qualifie comme ma résidence principale, ben je peux être capable de ne pas payer d'impôt sur ce gain. Okay. Il y a beaucoup de gens qui l'apprennent, mais il y a aussi l'Airbnb, Paul, ce matin. Oui. On le sait, hein? Il y a beaucoup de gens qui utilisent leur propriétaire pour faire du Airbnb, et dans le journal ce matin, on nous dit que 13 000 autres Airbnb à Montréal, ce ne sont pas tous des propriétaires. Il y a des locataires qui louent des chambres pour rentabiliser leur loyer, ou quand ils s'en vont, même chez des amis ou chez le conjoint-conjointe pour rentabiliser le loyer. Et là, ça apporte toute la notion de, oui, c'est taxable, c'est imposable, mais il y a aussi toute la notion de, écoute, les règles de la régie du logement sont là pour une chose, protéger le locataire pour lui permettre de se loger à bon prix. Mais là, tu as des locataires à Montréal qui profitent d'un loyer à bon prix, dans certains quartiers très en vogue, et dans le fond, le louent plus cher parfois qu'ils payent eux-mêmes de loyer. Et dans le fond, la régie est là pour protéger l'augmentation. Donc, si vous avez un bas loyer et que vous faites du Airbnb, vous faites de l'argent plus que le propriétaire qui lui-même a pris le risque financier parfois. Et ça, c'est une affaire qu'on n'avait pas prévue dans les règles de la régie du logement.
Non, ça c'est sûr.
Et dernière chose importante, ça influence aussi le taux d'inoccupation. Si tout le monde loue Airbnb ou plus de gens louent Airbnb, il y a moins de logements disponibles à la location long terme. Et par conséquent, le taux d'inoccupation à 2,8 en 2017, ben, il est peut-être un peu faussé par la location court terme. C'est à suivre.
Merci, monsieur. Bonne journée. 7h23.